Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Jody Daniel Kachama. Okapi.
Fidèles auditeurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Merci de votre fidélité à cette émission de la vie au quotidien. Cancer de la prostate, quelles sont les causes, quels sont les symptômes, les traitements et les moyens de prévention. On en parle avec le professeur Dieudonné Moningo Moulamba qui est urologue. Professeur Dieudonné Moningo, bonjour.
Bonjour Tati.
C'est plutôt Jody. Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui, professeur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Développement des petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo. On en parle dans la deuxième partie de cette émission avec le ministre de l'Industrie et développement des petites et moyennes entreprises, Louis Watoum Kabamba. C'est à partir de 11h05 heure de Kinshasa. Et vous allez nous suivre aussi en live sur les plateformes digitales de Radio Okapi. Merci de votre fidélité. Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs. À la technique, c'est Deb Sevita. Tati Mapoukou assure la coordination et la réalisation de cette émission. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellentes conditions d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioOkapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioOkapi.net, la radio en différé à votre service.
Et oui, bienvenue encore une fois dans ce magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler du cancer de la prostate. Quelles sont les causes, les symptômes, le traitement et les moyens de prévention? On en parle aujourd'hui avec notre invité. Il s'agit du professeur Dieudonné Moningo Moulamba. Il est urologue. Eh bien, le cancer de la prostate constitue un véritable problème de santé publique en RDC. Selon les experts, cette maladie concerne les personnes de sexe masculin autour de l'âge des 50 ans. Cependant, la maladie peut aussi subvenir à un âge un peu plus tôt avancé. Par ailleurs, le coût des soins n'est pas toujours à la portée de toutes les bourses. Pour les experts, le traitement du cancer des seins est efficace, surtout lorsque la maladie est diagnostiquée à un stade précoce. Alors, quel est le taux des prévalences du cancer de la prostate? Quels sont les symptômes, les traitements, les moyens de prévention? Eh bien, on en discute aujourd'hui avec notre invité, le professeur Dieudonné Moningo, qui est urologue. Professeur, encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. La première question est de savoir, c'est quoi la prostate?
Bon, merci Jody d'avoir pensé en moi en ce début d'année. La prostate, c'est pas une maladie comme disent les communs des mortels. La prostate, c'est un organe masculin. La femme n'a pas de prostate. C'est l'homme qui a la prostate. C'est un organe qui est situé en dessous de la vessie, devant les rectums. Donc les rectums, c'est là où passent les matières fécales, et organes à travers lesquels passe l'urètre masculin. Donc les urines passent par là, éventuellement aussi les spermatozoïdes au moment de l'éjaculation passent par la prostate pour aller jusqu'au niveau du pénis et arriver chez la femme au cours des rapports sexuels. Et cet organe masculin joue un rôle très important parce que il, comme je viens de le dire, il joue un rôle dans la sexualité également, parce que c'est grâce à lui que le, à elle que à cet organe, bien sûr, que le, les spermatozoïdes sont rendus fécondants, parce que le, il élabore une substance qui rend les spermatozoïdes fluides. Et à travers les, la prostate passe les canaux éjaculateurs, ce qui fait que lorsque la prostate est affectée par certaines maladies, les canaux éjaculateurs peuvent être bouchés et l'homme devient en fait infertile. Le deuxième rôle, c'est que les, la prostate participe aussi à la miction, c'est-à-dire au moment de remplissage de la vessie, il y a l'effet des sphincters, donc les structures qui empêchent les urines de descendre. Il y a la prostate aussi qui joue ce rôle-là de dans la miction, c'est-à-dire les urines, lorsqu'elles quittent la vessie pour aller à l'extérieur, les urines passent par la prostate également, à travers l'urètre prostatique. Voilà là, à ce stade-là ce que je peux dire à propos de la prostate.
D'accord. Alors, parlons à présent du cancer de la prostate. Aujourd'hui, quel est le taux de prévalence de ce type de cancer dans notre pays?
Bon, avant de parler du cancer de la prostate, je vais terminer en disant que l'organe masculin qui est la prostate peut être affecté par trois maladies. Il y a la prostatite qui est l'infection. J'en ai parlé tout récemment. L'infection qu'on appelle prostatite. Et il y a la prostatite qui peut être aiguë et la prostatite chronique. Et la maladie que nous voyons souvent, c'est l'infection, la prostatite chronique chez les jeunes gens, qui, lorsque elle n'est pas bien soignée, peut entraîner l'infertilité chez l'homme. Il y a aussi l'autre tumeur de la prostate qu'on appelle l'hypertrophie ou hyperplasie bénigne de la prostate, qui n'est pas cancer, c'est-à-dire que le à partir de la cinquantaine, la glande commence à augmenter les volumes. Nous tous, les hommes, pratiquement, nous avons une grosse prostate. Alors, ça s'appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate. Et notre sujet du jour, c'est le cancer de la prostate, qui est une maladie mortelle. Parce que lorsque cette maladie est diagnostiquée au stade avancé, les taux de mortalité est très élevé. Alors, du point de vue de la prévalence, au niveau mondial, on rapporte, les statistiques mondiales rapportent que plus ou moins 20 millions de personnes souffrent de cette maladie chaque année à travers le monde, et parmi eux, environ 9,6 millions meurent de suite de ce cancer. Malheureusement, ce taux de mortalité est très augmenté chez nous en Afrique subsaharienne à cause des diagnostics tardifs. Chez nous, en République démocratique du Congo, les statistiques réelles du cancer de la prostate ne sont pas connues. Mais ce que nous remarquons, nous les urologues, parmi les patients que nous recevons en consultation d'urologie, 20 à 25% viennent à la suite d'un cancer de la prostate. Et avec un taux de mortalité qui est élevé, j'en ai parlé aussi.
Oui.
Les taux de mortalité, selon les études locales, c'est environ 19,6% des patients qui meurent. Et plus de 50% des hommes qui viennent consulter pour les cancers de la prostate, ils viennent déjà au stade avancé de la maladie. Donc c'est un cancer déjà avancé.
Oui.
Et dans ces conditions-là, la survie moyenne n'est que de 27 mois pour les malades qui viennent avec un cancer avancé, avec une survie médiane de 30 mois. Vous voyez un peu, c'est un véritable problème de santé publique dans notre pays. Mais le Centre national de lutte contre le cancer, avec le ministère de la Santé, déploie actuellement un effort important pour maîtriser les statistiques des cancers de façon globale en République démocratique du Congo. Et ce travail ne concerne non seulement ces deux structures, ça nous concerne nous tous. Nous devons inventorier tous les cancers confondus dans notre pays afin de la maîtrise des statistiques.
Bien. Alors, docteur Moningo, quelles sont les causes du cancer de la prostate? Qu'est-ce qui est à la base de cela?
fait, Jody, on parle des facteurs de risque. Parmi les facteurs de risque, il y a la plupart de ces facteurs sont des facteurs qui ne sont pas modifiables, notamment l'âge avancé. Les cancers de la prostate affectent l'homme à partir de la cinquième décade, donc à partir de 50 ans. Alors pour les gens qui sont des familles à cancer, généralement, il arrive à partir de 45 ans. Et le deuxième facteur non modifiable, c'est les antécédents familiaux des cancers de la prostate. Donc on parle de l'hérédité. Donc il y a des familles à cancer. Donc lorsque vous avez des personnes dans la famille, excusez-moi, des personnes qui ont fait ces cancers, ça peut être les pères ou un fils, un oncle. Ah, donc vous courez les risques, on parle de l'hérédité par rapport à ces cancers-là. Donc ce sont les antécédents familiaux des cancers de la prostate. Mmh. Ça c'est aussi des facteurs qui ne sont pas modifiables. Et quand on parle d'hérédité, on parle des gènes de prédisposition génétique. Il y a beaucoup de gènes qui sont incriminés dans la genèse de ces cancers-là. Ce qui rend la maîtrise de ces cancers assez difficile, c'est ça l'hérédité, surtout l'hérédité polygénique. Il y a aussi des familles où lorsque la maman ou la sœur a fait un cancer du sein, les hommes, les enfants, ben, courent les risques. Là, on parle de l'hérédité monogénique, c'est-à-dire les mêmes gènes qui sont impliqués dans la genèse du cancer du sein, peut entraîner un cancer de la prostate chez les garçons.
Oui.
Donc là, c'est l'hérédité monogénique. Il y a d'autres facteurs, notamment les facteurs qui sont un peu modifiables, c'est l'environnement, l'alimentation, certains aliments, c'est-à-dire le fait de consommer plus la viande rouge, c'est-à-dire qu'il est riche en cholestérol, donc la graisse animale, la charcuterie, les sucreries et consorts, ce sont là les habitudes alimentaires, c'est-à-dire en général, de façon globale, les habitudes alimentaires occidentales peuvent entraîner la genèse des cancers.
Oui.
Il y a aussi un autre facteur modifiable, non modifiable que j'ai sauté, c'est l'ethnie. On constate que les Caucasiens font moins de cancers que nous, les Blacks, donc les Noirs. Nous, les Noirs, nous faisons plus de cancers, et surtout lorsque nous quittons notre milieu naturel et nous sommes déportés en Occident où nous changeons le style de vie, l'alimentation, et nous augmentons le risque de cancers de la prostate. Et les Asiatiques font aussi moins de cancers que les Caucasiens. Mais les mêmes Asiatiques, lorsqu'ils viennent en Occident, par exemple aux États-Unis ou à l'espace Schengen, ils font plus de cancers parce qu'ils ont modifié leur style de vie. Hein, ça a été remarqué quand vous allez aux Antilles françaises,
oui,
au Royaume-Uni ou aux États-Unis, vous allez remarquer que les Noirs antillais, les Noirs américains, les Noirs vivant au Royaume-Uni
développent
plus de cancers de la prostate que les autres. Alors il y a d'autres facteurs qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Ce sont des substances qui peuvent entraîner la genèse du cancer. Par exemple, l'usage de certains pesticides, c'est le cas aux Antilles françaises, où on utilise une substance qu'on appelle chlordécone, qui peut entraîner les modifications épigénétiques au niveau de la prostate et générer des cancers. On parle aussi de problèmes de la sexualité, mais les études sont un peu contradictoires dans ces conditions-là. On rapporte que les gens qui éjaculent fréquemment, ils diminuent les risques parce qu'il y a des substances dans les spermatozoïdes qui peuvent générer les cancers. Et ceux qui éjaculent fréquemment, ils diminuent les risques du cancer dans les couples. Mais ceux qui ont beaucoup de partenaires sexuels, donc ils font des rapports sexuels non protégés avec plusieurs femmes, ils accroissent les risques du cancer de la prostate. Évidemment, c'est lié aux infections sexuellement transmissibles et surtout les virus human papilloma qui entraînent les cancers du col utérin chez la femme. Lorsque l'homme l'attrape, il peut entraîner des remaniements au niveau des cellules prostatiques et générer un cancer de la prostate.
Bien, voilà, ce sont là les causes modifiables et les causes non modifiables du cancer de la prostate. Avant d'aller plus loin, on va accueillir les auditeurs. Nous avons Alain Guy Kambouy depuis Kananga et Justin depuis Kasumbalesa. Guy Kambouy, bonjour. Quelle est votre question?
Bonjour, monsieur le journaliste. Et bon, mon point de vue était que la maladie prostatique au Congo, le gouvernement congolais n'a pas une politique rationnelle sur cette maladie. Et nos médecins ne sont même pas formés pour ça. Quand les gens se rendent dans les hôpitaux pour cette maladie, vous sentez que c'est le médecin qui tâtonne. Des fois, c'est, nous on recourt aux produits indigènes de noirs ici. Alors, ma prière est que le gouvernement congolais puisse envoyer nos médecins en dehors du pays, qu'ils soient formés pour que cette maladie soit prise en charge normalement. Il n'y a pas vraiment de spécialistes situés ici à l'intérieur de pays. Nous souffrons et nos parents sont décédés de cette maladie. Voilà un peu mon point de vue.
Merci Guy Kambouy qui nous révèle qu'à Kananga, il n'y a pas de spécialistes qui peuvent bien prendre en charge les malades. Voilà. Et il demande au gouvernement de pouvoir trouver des solutions. Justin, vous êtes à Kasumbalesa, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody. Et je dis bonjour à notre invité qui est au studio ainsi que nos milliers des auditeurs.
Quelle est votre question? Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au cancer de la prostate?
Ok, j'ai de petites questions que je vais poser à notre invité s'il pourra bien nous répondre avec le temps parce que nous ne sommes pas connectés à la radio Capi ici, je suis en direct. Ma petite question est de savoir, est-ce que notre invité a déjà rencontré un tradit praticien qui guérit normalement notre cancer de prostate? C'est ma première question. Deuxième question, il y a beaucoup de tâtonnements dans nos médecins sur ces cas-là, comme mon prédécesseur vient de dire. Est-ce qu'il n'y a pas de recyclage pour les médecins pour qu'ils commencent à prendre efficacement le cas? Et puis, les produits que nous connaissons qui traitent bien le cancer de prostate, tels que Xacier, X-A-T-I-R. Donc, c'est très rare, c'est introuvable dans des pharmacies. Or, ce sont des cas qui sont fréquemment ici et beaucoup de gens en souffrent, même sans pas connaître qu'il est atteint du cancer de la prostatite. Alors, si cela est possible, est-ce que pourquoi on ne répand pas les produits thérapeutiques du prostate? Et ensuite, il peut apprécier avec moi les prises de quelques produits tels que manger. Il y avait un médecin qui nous avait conseillé de commencer à prendre à tout moment les tomates hein, crues. Vous les mettez dans l'assiette. Et les cocos, les noix de coco que ça prévient et ça anticipe ou ça réduit la douleur du prostatite. Je ne sais pas si notre invité va tenter de me donner des lumières sur ça.
Merci Justin, depuis Kasumbalesa. Patti, vous êtes à Bandounouville. Bonjour et quelle est votre question à propos du cancer de la prostate?
Merci Daniel et à tous les auditeurs.
Oui Patti.
Bon, la question que je voulais demander à l'invité, nous avons suivi son exposé, mais je voulais juste... Ils nous disent les symptômes. Comment on peut savoir que non, mais du prostate, quels sont les symptômes? Et ce qui se dit dans les rues ici, quelqu'un qui mange beaucoup, les pâtes, et il paraît.
Allô?
Ça protège bien. Est-ce qu'il confirme ou c'est son. Il nous a dit ce qui on peut les appeler comme les accros du sexe. Bon, ce sont ceux qui sont acceptés. Bon, quelque part là, il dit encore ceux qui font le sexe avec plusieurs partenaires, ils s'exposent. Bon, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce sont là un peu mes préoccupations. Je vous remercie.
Bien, merci Patti depuis Bandounouville. Voilà, il demande quels sont les symptômes du cancer de la prostate et il dit que beaucoup de gens pensent que le fait de manger la pastèque protège contre ce type de cancer et puis voilà, ceux qui ont des fréquentes relations sexuelles sont exposés et ceux qui ont plusieurs partenaires. Alors, il veut avoir un éclairage là-dessus. Nous avons un autre auditeur en ligne, Jonathan depuis Bounia. Bonjour Jonathan, et quelle est votre question concernant le cancer de la prostate?
Oui, bonjour cher Jody, et puis je vous appelle depuis l'Université Shalom de Bounia. Alors, merci beaucoup pour m'avoir associé à ce point de débat. Mais néanmoins, j'ai quelques deux petites questions. Si vous parlez de ce type de prostate qu'on appelle la prostate métastasique, il peut un peu nous dire par rapport à ça. Vous savez, il y a aussi certains facteurs de risque d'un cancer hein, de la prostate, entre autres l'alimentation déséquilibrée, et la sédentarité, la consommation de l'alcool, des tabacs, et ainsi de suite. Donc, celles qui peuvent influencer cette maladie de la prostate. Alors, c'est-à-dire, peut aussi arriver à nous éclairer un peu sur ces facteurs de risque à cette maladie de la prostate. Parce qu'on sait que la prostate commence par une dégénération de la cellule, c'est-à-dire. Une cellule qui commence à s'endommager et petit à petit, ça peut aller créer la prostate. Alors, c'est-à-dire, une fois que cette cellule prend de la ampleur, peut prendre certains autres organes, c'est-à-dire la veine par exemple, ça peut aussi aller voir même les poumons. C'est-à-dire, il y a vraiment toute une gamme de connaissances que les gens doivent savoir autour de cette maladie, pour que ceux-ci puissent quand même avoir un comportement en fait par rapport vis-à-vis à cette maladie, à la prostate. Merci beaucoup, Tagamila Gatti, depuis l'Université Shalom de Bounia.
Bien, merci Tagamile depuis l'Université Shalom de Bounia. Voilà, autant de questions sur le cancer de la prostate. Docteur Moningo, à vous la parole.
Je remercie mes amis qui sont éparpillés dans notre chère République démocratique du Congo, que nous devons absolument protéger. Je les remercie de leurs préoccupations, de leurs questions. Je vais commencer par celui qui a posé la question de savoir quels sont les symptômes du cancer avant d'aborder les aspects de traitement. En fait, le cancer de la prostate à son début n'a pas de symptômes, aucun symptôme. Et il y a des gens qui peuvent porter les cellules de cancer de la prostate et ces cellules restent dormantes, donc qui est centre, comme on dit en médecine, sans que le cancer puisse se développer jusqu'à la mort. Ils vont mourir d'une autre maladie. Mais par contre, chez certaines personnes qui sont porteuses de cellules cancéreuses de la prostate, les cancers commencent à évoluer, mais à très bas bruit, à telle enseigne que lorsque vous avez la maladie, vous ne pouvez pas savoir que vous avez un cancer. Raison pour laquelle nous recommandons aux hommes, à partir de l'âge de 50 ans, de voir une fois par an le médecin. Ça peut être un généraliste, un urologue. Il va vous prélever les sangs pour doser ce qu'on appelle l'antigène spécifique de la prostate ou le PSA, qui a une valeur normale variant entre 0 à 4 nanogrammes par millilitre. Lorsque c'est au-delà de ça, on peut penser d'emblée à un cancer de la prostate, mais à condition qu'il n'y ait pas d'autres facteurs qui peuvent faire augmenter les taux d'antigène spécifique de la prostate. Le médecin va vous faire un toucher rectal. Il va toucher la prostate pour savoir si il y a des signes prédicteurs du cancer de la prostate à l'issue de cet examen physique. Mais les gens qui viennent chez nous, ils viennent déjà avec les symptômes. C'est-à-dire lorsque le cancer de la prostate commence à être symptomatique, généralement c'est un cancer soit déjà localement avancé, ou très avancé, ou les cancers métastatiques. Alors, les signes, ce sont les mêmes signes que peuvent entraîner d'autres maladies de la prostate, notamment l'hypertrophie bénigne de la prostate que j'ai parlé, la prostatite. Le fait de se lever fréquemment la nuit, uriner en petite quantité, c'est un signe avant-coureur. Mais ces signes sont confondus avec l'hypertrophie, comme je viens de le dire, et la prostatite, surtout la prostatite chronique. Et vous avez un jet urinaire faible, donc vous allez uriner, les jets ne vont pas à un mètre, mais les jets tombent entre vos pieds, et jusqu'à ce que lorsque le cancer est très avancé, ça peut être un blocage complet d'urine, ça peut être une rétention urinaire aiguë ou chronique. Et quand c'est aiguë, vous ne puissiez plus, vous devez aller vite à l'hôpital pour qu'on vous place une sonde. Quand c'est chronique, vous faites ce qu'on appelle, nous appelons médecine, des mixtions par égorgement, c'est-à-dire, vous êtes constamment mouillé. Vous n'avez pas envie d'épicer, mais les urines sortent sans contre votre volonté. Là, ça signe un cancer déjà localement avancé. Mais pour le cancer qui a métastasé, donc qui a envahi d'autres structures du corps, comme les os, il y a des malades qui viennent seulement avec de la douleur osseuse. Il vient à docteur depuis un certain temps, j'ai des douleurs partout à travers le corps et je sens comme si mes os vont se briser. D'autres personnes viendront seulement avec la faiblesse. Il dit, docteur, ces derniers temps, je sens une faiblesse totale. Mais il faut que le médecin soit compétent pour savoir bien examiner les malades et savoir si ce n'est pas un cancer de la prostate. Et en gros, je peux dire que sur le plan des symptômes, il n'y a pas de symptômes comme ça particuliers pour les cancers de la prostate, raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur un dépistage annuel individuel du cancer de la prostate. J'ai entendu un auditeur parler du gouvernement. Le gouvernement est en train de faire les efforts. C'est pour cela le gouvernement a créé une structure qu'on appelle Conseil national de lutte contre le cancer qui cherche à couvrir les pays à propos des dépistages et éventuellement de la prise en charge de tous les cancers confondus, et non seulement les cancers de la prostate, mais les cancers du sein et d'autres cancers.
Oui, docteur, on a suivi notre Guy Kamboui de Kananga qui déplore le fait que là-bas il n'y a pas de spécialistes. Il y a d'ailleurs son père qui en est décédé faute de spécialistes. Ceux qui sont là tâtonnent, mais est-ce que c'est la raison pour laquelle il a posé cette question de savoir si le gouvernement peut investir beaucoup de moyens dans la formation des spécialistes capables de prendre en charge cette maladie?
Oui, évidemment, de plus en plus, on a des spécialistes qui sont formés ici chez nous à l'Université de Kinshasa, Lubumbashi, et il y en a qui viennent des autres pays comme le Maroc et ailleurs. Mais les problèmes majeurs dans notre pays, c'est que on a presque plus de bourses. On n'a pas de bourses pour la formation. Là, nous sommes à l'université, au Clinique Universitaire de Kinshasa. Chaque spécialiste se débrouille de sa manière. Et à la fin de sa formation, on ne peut pas l'imposer d'aller de n'importe où. La plupart des spécialistes sont concentrés ici à Kinshasa, tout simplement parce que le gouvernement n'a pas encore une politique claire de la gestion de ces spécialistes. Il y a des spécialistes qui sont là. Il y en a même qui n'ont pas des hôpitaux comme ça structurés pour partir. Donc c'est au gouvernement d'organiser la gestion non seulement des spécialistes mais même des médecins généralistes qui sont formés. Les efforts doivent vraiment être fournis. Je suis d'accord avec cet auditeur. Le gouvernement n'accorde plus jamais des bourses actuellement pour la formation à tout niveau, même à l'université de façon globale et aussi au niveau des spécialités. Il n'y a pas de bourses. Comme on dit, c'est chacun pour soi, donc on se débrouille comme ça pour atteindre ce niveau-là. Donc là, c'est la part des gouvernements.
Oui.
Voilà ce que je peux dire à ce sujet-là.
Bien, nous parlons aujourd'hui...
Il y a d'autres questions.
Oui, on va revenir sur les autres questions. Nous parlons aujourd'hui du cancer de la prostate. Quelles sont les causes, les symptômes, les traitements, la prévention? Eh bien, vous avez des questions et préoccupations, les standards est ouvert. Composez les 099-706-9941. Cancer de la prostate, notre invité, il s'agit du docteur Dieudonné Moningo qui est urologue. Quelqu'un a posé la question tout à l'heure, docteur, de savoir est-ce que le fait de manger la tomate La noix de coco, ça peut prévenir le cancer de la prostate. Un autre a parlé aussi le fait de manger beaucoup la pastèque. Hein, est-ce que ça peut prévenir cette maladie. Il y a d'autres qui parlent de la courge, le mica, le fait d'en consommer régulièrement, ça peut prévenir le cancer de la prostate. Qu'est-ce que vous en dites, docteur?
Oui, bon, vous voyez, j'ai parlé de facteurs qui sont qui ne sont pas compressifs, donc qui sont toujours là, et il y a des facteurs qu'on peut réduire. L'alimentation générale, l'alimentation végétarienne diminue les risques de cancer de façon globale. Tous les aliments qu'ils ont cités, les pastèques, la courge, la tomate, entraînent la réduction des radicaux libres. Donc, ce sont des aliments antioxydants. Vous savez que lorsque on veut développer un cancer, il y a ce qu'on appelle le stress oxydatif qui est généré au niveau des cellules, aux cellules de l'organe. Et ce stress oxydatif diminue la consommation de l'oxygène au niveau de la cellule, avec comme conséquence la cellule qui est appelée à mourir, on appelle ça apoptose, au lieu que la cellule meure, cette cellule continue à se multiplier de façon exagérée et s'entraîne la genèse d'un cancer. Raison pour laquelle certains aliments qui nous apportent les antioxydants peuvent freiner la genèse du cancer de la prostate. Mais à ce sujet-là, je vous dis, en tant que chercheurs d'université, les résultats des études sont très contradictoires. Mais j'insiste beaucoup, c'est ce qui est la clé de voûte, c'est que dès que vous atteignez l'âge de 50 ans, il faut voir le médecin une fois par an. Si même s'il n'y a pas un urologue dans les milieux, on peut voir n'importe quel spécialiste ou n'importe quel généraliste pour demander un dépistage des cancers de la prostate. Les autres aspects d'alimentation et consorts, ce sont des aspects qu'on peut explorer, mais lorsque vous avez des cellules cancéreuses, quelle que soit cette alimentation, mais lorsque le cancer va apparaître, il va apparaître. Voilà.
Bien. Il y a partie de Bande Nouvelle qui dit, vous avez dit le fait d'éjaculer fréquemment, expose au cancer de la prostate, et le fait d'avoir des rapports sexuels avec plusieurs partenaires, alors il est perdu, il veut savoir maintenant qu'est-ce qu'il peut retenir là-dessus.
Il ne peut pas être perdu. Ce qu'il doit retenir, c'est que il faut être fidèle, un homme fidèle. Donc lorsque vous avez votre épouse, vous faites les rapports sexuels normaux et réguliers, et lorsque vous multipliez des partenaires sexuels, ce n'est pas seulement pour les cancers de la prostate, mais pour les autres maladies sexuellement transmissibles. On assiste aujourd'hui à une situation où certains hommes ont plusieurs partenaires sexuels, mais ils font des rapports sexuels non protégés. Alors vous n'êtes pas protégé, vous faites une infection sexuellement transmissible, vous pouvez générer un cancer de la prostate à travers les mécanismes dont j'ai cité si haut. L'idéal, c'est d'avoir un rapport sexuel protégé lorsque on fait un rapport en dehors de la sexualité régulière, c'est-à-dire un couple. Mais lorsque vous multipliez des partenaires sexuels, vous savez bien, je l'ai dit, si vous faites un rapport non protégé, chez les femmes, il y a un virus qu'on appelle le human papilloma virus, qui peut entraîner les cancers du col utérin. Ce virus-là peut entraîner aussi un cancer de la prostate chez l'homme. Alors, si vous vous protégez, non seulement vous vous protégez contre les cancers de la prostate, vous vous protégez contre les virus de VIH, et la syphilis, et la blénorragie et consorts. Voilà, ce qu'il doit retenir, c'est que il doit éviter de faire des rapports sexuels non protégés. Ça va les protéger. Voilà.
Bien, et Jonathan Debounia qui vous pose la question de savoir c'est quoi la prostate métastasique, je crois.
Il doit savoir, ce n'est pas la prostate qui est métastatique, mais c'est le cancer qui est métastatique. le cancer de la prostate qui a métastasé, c'est-à-dire les cancers, les cellules ont quitté la prostate et elles ont envahi d'autres structures du corps humain, notamment au niveau des os, Mikua en Lingala, ils entrent dans les cellules entrent dans les ganglions au niveau de la cavité abdominale, donc dans les ventres. Les cancers de la prostate peuvent envahir les foies. Les cancers de la prostate peuvent envahir les poumons. Les cancers de la prostate peuvent aller éventuellement monter au niveau du cerveau et même voir la colonne vertébrale. Il y a des malades qui viennent parfois avec la paralysie des jambes. Là, c'est un cancer qu'on appelle le cancer métastatique. Donc, le cancer qui a métastasé, qui a quitté la prostate, qui est bas situé pour envahir pratiquement tous les corps.
Bien. Nous parlons du cancer de la prostate. Quelles sont les causes, les traitements et la prévention? Alors, parlons à présent du traitement, docteur Moningo. Vous êtes urologue. Quels sont les traitements appropriés? Vous avez dit que lorsque le malade se présente à un stade à un stade précoce, les traitements est beaucoup plus efficace.
En fait, tous les cancers sont guérissables. Mais l'unique condition, c'est que ces cancers soient détectés au stade de débit. Hein, pour les cancers de la prostate, les traitements dépendent du stade évolutif. Lorsque vous avez un cancer localisé, c'est-à-dire les cellules sont concentrées dans la prostate, ce cancer-là est guérissable. Guérissable, il y a plusieurs modalités thérapeutiques de traitement. On peut faire, pour nous les chirurgiens, on fait la chirurgie. On enlève toute la prostate et cette technique s'appelle la prostatectomie radicale. Ou bien on peut vous faire la radiothérapie. On peut bombarder les cellules cancéreuses par la radiothérapie et en ce moment-là, l'homme peut recouvrer la guérison totale. Ça, c'est au stade de débit. Mais lorsque le cancer est localement avancé, ou un cancer, bon, évidemment, c'est vraiment acrobatique. Ce sont des termes assez spécialisés et c'est nous, les urologues et les oncologues médicaux et même les oncologues radiothérapeutes qui nous discutons en concertation multidisciplinaire pour donner les traitements. Mais il y a les cancers localement avancés, nous commençons par les traitements hormonaux que nous appelons l'hormonothérapie et souvent cette hormonothérapie est associée à la radiothérapie. Et si ça tient, on continue et pratiquement la radiothérapie, ça peut s'arrêter à mi-chemin, mais l'hormonothérapie, c'est pour toute la vie. Et nous, on appelle l'hormonothérapie de première ligne et de seconde ligne, selon que les cellules cancéreuses répondent bien à ce traitement-là. Mais il y a d'autres traitements que je ne peux pas citer. Les cancers qui a métastasé, c'est-à-dire, je viens d'en parler, ces cancers-là, s'il continue à répondre à l'hormonothérapie, on va donner l'hormonothérapie. Mais si ça ne tient pas, nous basculons dans ce qu'on appelle la chimiothérapie. Alors, c'est comme je peux dire, c'est une prise en charge très acrobatique. Et je reviens en disant que certains cancers localisés ne sont pas traités. Et ils sont seulement surveillés. Nous disons la surveillance active. Par exemple, un jeune homme de 45 ans qui vient de se marier et qui a un cancer qui n'est pas très agressif, il a besoin d'avoir des enfants. Alors, à ce moment-là, vous surveillez les cancers. Vous lui dites que votre cancer est encore localisé, mais vous devez, si vous avez besoin de bébés, à ce moment-là, je vais vous surveiller. Et dès que je constate que les taux d'antigène commencent à augmenter, en tout cas, à ce moment-là, j'élève l'option de faire une intervention chirurgicale ou de vous envoyer en radiothérapie pour la prise en charge de ces cancers. Et ce n'est pas n'importe qui traite un cancer comme on le voit chez nous ici. Les cancers de la prostate, sa prise en charge se fait en multidisciplinarité entre l'urologue, les radiologues, donc l'oncologue médical et l'oncologue radiothérapeute. À un certain moment, nous associons les psychiatres parce que quand quelqu'un qui a un cancer, il est déprimé, il a besoin d'un soutien moral. À ce moment-là, on fait appel à un psychiatre pour pouvoir discuter, parler avec avec les patients. Il y a aussi, on associe ceux qui sont des spécialistes en soins palliatifs, surtout pour les malades qui sont au stade très très avancé et nous devons les accompagner. On fait appel aux spécialistes aux soins palliatifs pour pouvoir prendre en charge ces patients. Et en conclusion, je dis que la prise en charge du cancer de la prostate collégiale elle est à la fois multimodale.
Bien. Alors, docteur Moningo, quelles sont les raisons qui font que, généralement, les malades se présentent déjà à un stade avancé? Est-ce c'est l'ignorance ou c'est le manque de moyens? Quelles sont les vraies raisons?
Bon, il y a tout ça. Il y a tout ça. L'ignorance, c'est, à un certain moment, c'est notre faute. Parce que nous sommes pas toujours dans les médias. La responsabilité et comme à la fois à nous-mêmes, au gouvernement, de pouvoir sensibiliser la population au dépistage. Nous n'avons pas la culture de faire les check-up. Et ce manque de cette culture entraîne que les malades deviennent au stade avancé. Il y a aussi les problèmes de moyens. J'ai organisé un dépistage qui continue d'ailleurs des cancers de la prostate ici à la clinique de Pointe-à-Pitre à Matete. Il y a des gens qui sont venus parce qu'on a réduit les tests qui coûtent $250. Nous avons réduit à $60. Mais malgré ça, certaines personnes, la plupart, ne sont pas venues parce qu'ils n'ont pas $60 pour payer pour se faire dépister. Donc, il y a aussi les problèmes de moyens. Donc, il y a aussi les gouvernements. L'État doit faire en sorte que les gens aient accès gratuit à la fois au dépistage et un accès gratuit au cancer, au traitement des cancers. Et les gouvernements actuellement font des efforts uniquement pour ce qui concerne les cancers du col chez la femme et les cancers du sein. Et un peu, bon, aux cliniques universitaires, il y a une structure française qui traite gratuitement les cancers chez les enfants. Mais de façon globale, chez l'homme, on est ignoré, on prend pas en charge les cancers de la prostate. C'est la famille, c'est l'homme lui-même qui doit se prendre en charge, alors que la prise en charge des cancers de la prostate est très très coûteuse. Et certaines personnes ne sont même pas à mesure d'acheter ne fût-ce qu'une boîte de médicaments. Et c'est comme ça que je fais un plaidoyer pour que les gouvernements puissent intégrer aussi la prise en charge du cancer de la prostate dans sa stratégie. Je sais que j'ai écouté dernièrement les discours des ministres de la Santé qui pensent que d'ici, dans un proche avenir, on peut intégrer tous les cancers pour une prise en charge gratuite. C'est pas gratuit parce que le gouvernement investit pour cette prise en charge-là. Mais nous-mêmes, nous devons prendre conscience que notre métier, c'est aussi de faire la sensibilisation. Et ce n'est pas seulement les médecins, c'est vous les journalistes. Vous devez aussi, vous aujourd'hui avec l'accès Internet,
oui,
vous pouvez lire sur un cancer et faire un topo sur les dépistages précoces dans les médias. C'est ce que nous ont montré de faire avec Radio Capi aujourd'hui.
Bien, vous avez lancé une campagne de dépistage du cancer de la prostate depuis le 2 février. Alors depuis, à ces jours, combien de personnes ont été dépistées et combien de personnes testées positives, je veux dire?
Bon, nous n'avons pas encore arrêté. Actuellement, nous sommes à plus ou moins 50 patients. Nous avons, ce ne sont pas les patients, nous sommes à plus ou moins 50 personnes qui sont venues. Et parmi ces gens-là, nous avons des gens qui sont suspects. Et nous sommes maintenant en phase de prélèvement des biopsies. Nous sommes en train de prélever les biopsies pour savoir si les laboratoires vont nous répondre positivement. Parmi ces gens, plus ou moins 27% de ces gens-là qui sont venus se faire dépister, ils ont soit une prostate qui est suspecte de cancer, d'autres ont un taux d'antigène spécifique élevé, moyennement élevé et très élevé. Et c'est ces gens-là, j'avais dit à l'époque que nous allons effectivement trouver le cancer de la prostate. Et vous voyez déjà sur les 50 personnes, on a déjà une proportion de 27% des hommes qui sont suspectes du cancer. Et je suis sûr que parmi les 27% des suspects, il y aura éventuellement des cancers de la prostate. Et à ce stade ici, je ne peux pas vous donner un chiffre, peut-être dans 2 ou 3 semaines, parce que les résultats doivent traîner un peu au laboratoire. Et à ce moment-là, je vais donner les chiffres exacts. Mais retenez que parmi les 50 personnes que nous avons dépistées, il y a plus ou moins 27% qui sont suspectes de cette maladie.
Bien, nous parlons du cancer de la prostate. Nous allons aborder la dernière partie de cette émission. On va échanger et parler de la prévention. Des questions et préoccupations, composez les 0-99-706-99-41. Bien, à présent, nous allons échanger sur la prévention. Alors, docteur Moningo, je rappelle que vous êtes urologue. Pouvez-vous nous rappeler comment prévenir le cancer de la prostate?
Bon, en fait, jusqu'à présent, de façon formelle, il n'y a pas une prévention du cancer de la prostate. Il y a des recherches qui sont déployées parce que les problèmes majeurs, c'est que les cancers de la prostate est la fois multifactoriel, multigénétique, et la maîtrise d'une molécule préventive est difficile. On a cité l'aspirine et consorts et autres substances qui peuvent prévenir les cancers. En tout cas, jusqu'à preuve des contraires, il n'y a pas de méthode préventive. Ce qu'il faut faire, c'est éviter de consommer trop de graisses animales, des viandes rouges, éviter trop de sucreries, éviter trop d'alcool, donc trop de sexe. Tout ça, ce sont des méthodes qui sont en un peu plus aléatoires. La meilleure façon de faire, c'est de faire un dépistage individuel précoce de ces cancers-là. Parce que jusqu'à preuve des contraires, on n'a pas une méthode comme ça efficace. Là, peut-être la méthode efficace, c'est que les gens qui n'ont pas de testicules, donc on les appelle les castrats, ceux qui n'ont pas de testicules ne peuvent pas faire les cancers de la prostate. Or, si vous êtes castré dès le bas âge, vous êtes condamné à être sexuellement impuissant, vous êtes condamné à ne pas avoir des enfants dans votre vie. Ou bien les gens chez qui on peut enlever totalement la glande prostatique dès le bas âge, ils ne feront pas le cancer, et ce qui n'est pas recommandable à ce stade ici. Donc il n'y a pas de méthode formelle de prévention des cancers de la prostate. La meilleure méthode de se faire dépister une fois par an dès qu'on atteint l'âge de 50 ans.
Voilà, un message rapidement en lingala, docteur Nengenimi Tokoki Kokebisa Bokono Bengi cancer ya prostate.
Nakoki koloba boye cancer ya prostate ezali na kisi oyo ekoki kopekisa yango te. Biso mibali soko komi mbula 15 esengi omona kamonganga ata mbala moko na mbula moko atala yo soki cancer wana ebandi na nzoto na yo te. Soki pe na famille na bino, na libota na bino, tata to ndeko to koko na yo abelaka cancer ya prostate, to pe mama na yo azaki na cancer ya libele, esengi te mbula na mbula a partir ya mbula 45 otala minganga po batala prostate na yo soki eza na cancer te. Mais pona sikawa, kisi moko te ko prévenir. Batuna ipe motuna ya balobaki te bakisi ya bokoko ekoki kobikisa cancer ya prostate.
Yeah.
En tout cas, nayebi te, parce que biso tolobaka makambo oyo ya biso ya recherche, tosaka recherche. Bato mingi bazoya awa akoyebisa ote nazwaki epai ya nganga kisi, mais atraite ngai nabiki te. Mais esengi bomiki ebisa soki balobi non likambo ya prostate, esengi otala nde monganga oyo atanga makambo yango, surtout urologue, akopesa yo toli ya malamu, to pe akosala yo examen ya malamu pe traitement ya malamu te abikisa yo na bokono bona, to pe asala te omela mwa mikolo na mokili oyo.
Bien, Matondo Mingi, professeur Dieudonné Moningo Molamba, je rappelle que vous êtes urologue. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour échanger autour du cancer de la prostate. Excellente journée et à la prochaine.
Excellente journée à vous aussi, jeudi. Au revoir.
Au revoir.
Mbwana, kuna nitukia juu ya nini? Mbwana ni vitu ya serikali.